jusqu'à 14h. On en jase.
Émission On en jase sur Boulevard 102.1, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Vous êtes vraiment plusieurs à le faire. Julie, qui a mentionné justement par rapport à Francis Tremblay, Mathias, qu'on a effectué son petit bout humoristique, oui. Le candidat dans Chicoutimi de la CAQ, elle dit ben là, pourquoi pas, Justin Trudeau faisait bien de l'humour avec Jean-René Dufort. Justin Trudeau faisait de l'humour tout court.
Ouais, j'ai envie de dire Justin Trudeau, c'était de l'humour.
C'est juste qu'il ne savait pas. Alors, continuez à interagir avec nous. BLVD.fm, les meilleurs moments de l'émission vont se retrouver là-dessus, notamment notre entrevue qu'on vient d'avoir avec Karianne Bourassa, très, très, très intéressante, où on comprend que la CAQ et RCR, ça ne fait plus bonne équipe. Donc, d'après moi, on va avoir des nouvelles que RCR ne sera plus gestionnaire du Mont-Saint-Anne d'ici peu. Ça inclut également la web radio, le BLVD.fm, notre application Boulevard 102.1 est disponible App Store, Google Play Store, meilleure façon de nous écouter. Twitch.tv/BLVD.fm, vous êtes plusieurs sur Twitch. Donc, vous avez un beau débat sur l'espionnage des véhicules. Continuez comme ça à interagir. Également, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous avez notamment les podcasts des grands événements avec Denis Gravel. Il va y avoir les podcasts hors série aussi qui vont débuter dans la semaine du 1er février. Et le 2 février, c'est un podcast que j'ai enregistré avec mon cousin Eric où on revient sur nos tentatives de suicide. Donc, l'objectif, c'est de parler aux gars là, qui ne parlent pas. Puis qu'au lieu de se rendre aussi loin que moi et Eric, on s'est rendu, ben, c'est de faire en sorte qu'on demande de l'aide. On a pour objectif de sauver au moins une personne. Je suis convaincu qu'on va réussir à le faire. Avant de passer à Rémi Villemur, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Là, notamment, oui. La CAQ est en train d'envoyer, de parler, de confirmer ses règles pour la course à la direction du parti. Mark Carney va venir se présenter au Lutrin à Québec pour faire sa conférence de presse. Je le rappelle, Irénée Rutema va être avec nous demain à 12h35 pour nous parler de ceci. Joël Lightbaum va être en entrevue également avec nous aux alentours de 13h. Mais sinon, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, bien, ça brasse à Québec. On parle des règles de la CAQ pour la prochaine course à la chefferie. Juste rapidement, la course à la chefferie de la CAQ qui se terminerait le 12 avril prochain. Donc, on connaîtrait à ce moment-là le nouveau premier ministre du Québec. Pour participer à la course, tous les candidats devront déverser 30 000 $, recueillir 1 000 signatures des membres de la CAQ dans 75 circonscriptions différentes. Et ce qui surprenait le plus et qui sera probablement le plus difficile pour les candidats qui voudraient se présenter, c'est recevoir l'appui de 15 députés présentement élus du côté de la CAQ. On va suivre ça au cours des prochaines minutes si on a des détails supplémentaires, mais c'est sûr qu'au cours des prochains jours ou de la semaine prochaine, on va avoir certaines candidatures qui devraient commencer à se porter. Également, t'en as parlé, Mark Carney, qu'est-ce qui va ressortir de ce discours-là? La question se pose. Une chose est sûre, c'est Jean-François Simard a envoyé une lettre à Joël Lightbound pour mettre de la pression concernant le financement du tramway. On veut que le gouvernement fédéral revienne à 40% des coûts du tramway qui est présentement chiffré à 7,6 milliards. Donc, on passerait de 1,44 milliards à 3 milliards. Donc, Mark Carney qui va faire un discours, est-ce qu'il va en faire mention? Ce serait bien étonnant. Mais une chose est sûre, on va suivre ça de près. Et ce qu'on va suivre de près également, c'est des négociations massives de Charlevoix parce que d'ici la fin d'après-midi, normalement, on devrait avoir le résultat du vote des employés syndiqués concernant l'offre finale de l'employeur dans le but de sauver la saison de ski au massif.
Il est avec nous à chaque mardi et à chaque jeudi aux alentours de 13h, 13h10. Il est animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin en compagnie de Jacinthe Varel de 8h à 10h. On rejoint l'excellent Rémi Villemur. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, les gars, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, Mark Carney se prépare à faire une allocution et il réunit son cabinet des ministres dans la capitale nationale à Québec. Mais ce qui retient l'attention avec Mark Carney, et même si ça fait déjà 48 heures, c'est son discours très pragmatique, très précis à Davos.
Oui, puis moi, ce qui m'intrigue, c'est les raisons cette fascination qui persiste pour ce discours-là. On n'est pas habitué de voir un premier ministre du Canada aller à l'étranger ou même sur place prononcer un discours pareil. Chantal Hébert, avec qui je partage beaucoup de désaccords, mais dont je respecte quand même l'expérience et le parcours dans le journalisme, elle a dit qu'elle n'a jamais vu. Et de son vivant, elle ne se rappelle pas d'un discours aussi magistral. Donc, elle fait quand même un travail de couverture journalistique depuis les années Mulroney. Là. Il y en a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, je pense qu'il faut qu'on mesure jusqu'à quel point ce discours-là était effectivement un grand discours. Puis je pense qu'il y a des ingrédients de la réussite de ce discours-là qui se trouvent simplement dans le fait, c'est tout simple, c'est banal, vous me direz peut-être les gars, mais dans le fait que c'est lui qui l'a écrit, le discours. Généralement, un discours de premier ministre, c'est écrit par des conseillers politiques quand ce n'est pas écrit par des gens dont le travail très précis, la fonction est d'écrire des discours. Et souvent, il y a plusieurs mains à l'intérieur d'un même discours. C'est pour ça que quand on l'écoute, ben, ça n'a pas l'air d'être une œuvre en soi, puis on n'a pas de toute façon l'intention que c'en soit une parce qu'on veut communiquer des idées. Mais Mark Carney, hein, à qui on ne reconnaissait pas ce genre de qualité-là, on disait c'est un homme très discret, ça a l'air d'être un technocrate. Au niveau du charisme, on n'était pas impressionné. Il y a des vidéos de lui qui circulaient où il dansait le soir de sa victoire avec les coudes dans les airs, puis on disait Boboy, hein, on est loin de Justin Trudeau. Et là, il arrive avec un discours qu'il écrit lui-même. Et ça se sent, ça s'écoute, parce que dans le texte, on sent. Déjà, il lit pas une feuille.
On sent l'émotion.
Ben, on sent en tout cas que ça vient de lui. C'est mâché, c'est bien mâché, parce que ça vient de sa tête et ça se transporte jusque dans la foule. Il y a ça, premièrement, qui, à mon avis, fait en sorte qu'on comprend que c'est un discours qui n'est pas comme les autres. Mais ce qui l'a rendu aussi important, ce discours-là, vous me direz peut-être que c'est tout aussi banal, mais il faut quand même le nommer. C'est qu'il a dit quelque chose de vrai. Hein? Ça, oh, peut-être que là, vous me direz, Boba, il est démagogique aujourd'hui, Rémi, mais il y a beaucoup de discours de politiciens, sans dire qu'ils nous mentent, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas vrai. Hein? On
Moi, j'ai
tourne en.
toujours, on camoufle la réalité ou on embellit la réalité dans ces discours-là.
On tourne en rond, on
Ouais.
essaie de ne pas nommer les
Les
choses.
grandes phrases creuses.
Exactement. Puis c'est très finalement calculé, mathématique, mise en scène. Et là, ce que Mark Carney nous a dit, c'est, regardez, inutile de regretter le monde d'avant, OK? Perdons pas de temps, ce monde-là n'existera plus. Alors là, il y a des deux catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent par en avant, puis il y a ceux qui regardent par en arrière. Puis ceux qui regardent par en arrière, ils restent stallés à la position actuelle. Il a dit, si vous voulez venir autour de la table, vous ne serez pas au menu. Donc, un réalisme politique, une lucidité qui nous fait finalement nous rappeler que le monde, et checkez bien ça les gars, est tragique. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Il y a des forts, il y a des plus faibles. Il y a des dominants, il y a des dominés. Et ça faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas dit. Et ça fait du bien finalement de se faire parler comme du monde, comme du vrai monde.
Ben oui, puis de se faire dire la vérité. C'est-tu moi qui en mets trop, Rémi, ou pour le 12-15 minutes que son allocution a duré, j'avais l'impression que le Canada est en train de prendre le contrôle du monde. Puis là, je m'explique, t'es Mark Carney. Livrait des grands pans de sa réflexion et de comment il voyait l'économie canadienne s'imbriquer avec l'économie européenne. J'ai eu l'impression pendant 12-15 minutes que on contrôlait la destinée du futur.
Ouais, je pense que tu exagères un peu, quand
Ah
même.
ouais, j'exagère!
Non, non, mais
C'est
écoute.
mon patriotisme canadien, mon drapeau était pas loin.
Ouais. Non, ben écoute, je pense que justement, Mark Carney veut qu'on comprenne que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il nous l'a dit sans les nommer. Hein. Apparemment, j'ai pas écouté le discours dans son entier, mais apparemment qu'il n'a jamais nommé les États-Unis. Il n'a
Non,
jamais dit
jamais. Moi, je l'ai
United
écouté
States
dans
of
son entier.
America ou États-Unis. Bon, c'est quand même assez fort. Donc, mais on a bien compris qui étaient les plus puissants. Et les plus puissants, ben, le Canada n'en fait pas partie. Mais selon lui, le Canada doit quand même pas lâcher le morceau. Là où je pense qu'il aurait pu, s'il n'avait pas été premier ministre, s'il avait été un analyste politique, s'il avait été un essayiste, un philosophe, il aurait dit, ben, on ne sortira pas gagnant de ça, hein, parce que c'est la vraie vérité, c'est la vérité qu'on ne peut pas quand même demander à un premier ministre de dire publiquement, surtout quand il a ce titre-là. Mais le Canada doit savoir qui sont ses alliés, savoir qui peuvent s'inscrire dans la même lignée que lui, le Canada. Et il faut simplement s'asseoir avec des gens qui ont des intérêts communs. C'est tout aussi simple que ça. Puis il faut aussi savoir, si ce n'est pas déjà su, mais je pense qu'ils le savent, que Donald Trump est imprévisible. Du jour au lendemain, il peut nous emmener ailleurs. Donc à un moment donné, il faut commencer à construire sur ce que l'on peut anticiper. Ce que l'on ne peut pas anticiper, ben, ça sème la panique, mais la panique, ça nous stalle. Exactement.
Parlant des États-Unis de Donald Trump, ton deuxième sujet pour nous aujourd'hui, c'est comment je commence à ignorer ce que Donald Trump fait. Et là, je veux que tu me coaches parce que moi, en grand démocrate, je m'attarde à Donald Trump parce que je veux pas que des personnages politiques comme ça prennent à nouveau le plancher des États-Unis. Pourquoi toi, tu choisis l'ignorance?
Ben, C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir, là, ça fait deux mandats, là, c'est-à-dire un mandat au complet, puis un an d'un deuxième mandat. On commence à comprendre le personnage. Je pense qu'il va falloir commencer non pas l'ignorer, mais à prendre un peu de distance par rapport à chacune des choses qu'il dit dans l'espace public. On a eu un exemple frappant avec le Groenland. Le Groenland, il a dit, je vais faire ça. Et là, du jour au lendemain, il a dit, c'est beau, je me suis entendu, je ne le ferai pas finalement. Puis on n'en parlera même plus. Il a dit, l'entente que j'ai signée avec le secrétaire de l'OTAN, c'est une entente à vie. Donc, normalement, on n'en entendra plus parler. Mais jusqu'à quel point sa parole vaut quelque chose? Je veux dire, ça vaut rien, en réalité. Donc, cet homme-là a besoin d'attention. Son carburant, c'est l'attention. Tu as raison, Jean-François, de dire il faut quand même écouter le président des États-Unis. Hein, j'en vois pas le signal contraire. Il faut porter attention à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Mais il y a eu des présidents dans l'histoire de l'humanité qui ne carburaient pas autant à l'attention, qui avaient des velléités semblables aux siennes, qui avaient des projets ravageurs comme le sien, mais qui avaient de vrais objectifs. Alors que Donald Trump, on réalise qu'il lance quelque chose dans l'air. Ça sème le chaos et il construit à partir du chaos. Mais si on ne l'écoute plus, ou en tout cas si on fait attention, on fait un petit effort collectif de lui accorder moins d'attention, ce serait déjà un départ. Lui, il n'en a plus de carburant. Il carbure à ça. Si quand il dit je vais envahir le Groenland et personne panique, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous vraiment qu'il va l'envahir? On n'a pas pensé poser la question à des militaires. Il y a des militaires, moi, que j'ai interrogés qui m'ont dit, on n'a jamais cru une seule seconde qu'il allait faire ça. En tout cas, pas avant l'été. C'est pas possible d'envahir le Groenland comme ça. C'est un territoire qui est particulier. Les soldats sont pas entraînés. Ça prend un certain type d'avion pour aller dans un climat pareil. Tatatata. Nous autres, on a entendu invasion Groenland et on s'est dit, oh, c'est possible qu'il le fasse. Alors lui, il a construit à partir de cette désorganisation-là. Mais si on lui accorde moins d'attention, il n'y a plus le terrain de jeu sur lequel il est habile parce qu'il n'y a plus d'attention.
Donc, l'idée, c'est, au lieu de s'attarder aux paroles et aux menaces de Donald Trump, s'y attarder, mais seulement quand il y a une action concrète qui est posée.
Ben, en fait, on va être réaliste, là. Les gens qui habitent au Groenland, quand il a dit qu'il allait les envahir, je les comprends, mais comme à 100 000 % là, d'avoir paniqué. Mais les Canadiens, je comprends pas pourquoi ils ont paniqué. On commence à le comprendre, le personnage. Donc, il suffit pas de déployer autant d'attention. Il suffit de dire, bon, ben, c'est encore une frasque, c'est encore un truc qu'il lance comme ça pour paralyser la presse, pour paralyser les discussions, les alliances, les accords, les forums, les conférences internationales. Essayons au moins. Hein? On a essayé le contraire, là. On a essayé de le prendre au sérieux à chaque fois, puis 9 fois sur 10, c'était du trolling. Donc, essayons autre chose. Essayons de lui accorder moins d'attention, hein, parce que c'est compliqué de lui accorder aucune. Accordons-lui moins d'attention, on verra ce que ça donne.
Moi, ouais, je n'aille pas ton pari, justement, de dire hey, si Emmanuel Macron, Mark Carney, Keir Starmer faisaient pas toujours un geste à chaque fois que Donald Trump parle, mais ben peut-être qu'il parlerait moins et qu'il agirait moins par la force des choses.
Ben, il ferait autre chose. Il se concentrerait sur sa politique intérieure. Il se concentrerait sur. Parce qu'il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre, lui. Il va falloir qu'il livre la marchandise aux Américains sur plein d'enjeux qui n'ont rien à voir avec l'invasion de tel territoire ou l'invasion de tel autre territoire.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te parler à chaque mardi et jeudi. Tu m'amènes toujours à réfléchir différemment. Tu sais, je te le dis. Puis là, tu m'amènes vraiment à réfléchir sur Donald Trump. Je te remercie beaucoup pour cette période de réflexion. J'ai pas besoin de psychologue. Mathias, Jérémy Villemur.
Je charge un peu moins cher en
Ben,
plus.
exactement. Hey, bonne émission ce soir sur les ondes du 99.5 et au plaisir de se parler mardi.
Bye bye. À vous deux.
Salut Rémi, merci. C'était Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, un jeune en pleine ascension dans les médias. Si vous ne le suivez pas, commencez à le suivre sur les différents médias sociaux également, sur son podcast, sur la plateforme Il reste du monde. C'est vraiment des podcasts fort intéressants.
Oui, juste vous dire, juste vous faire un rappel, en fait, sur les routes, c'est encore pas beau. Ça roule lentement un peu partout du côté de la ville de Québec, même si on n'a pas de ralentissement majeur. Mais encore une fois, toutes les artères principales de la ville de Québec ne sont toujours pas bien déneigées pour l'instant.
Mathias, est-ce que le Canadien l'emporte ce soir face au Sabre de Buffalo?
Ben, on croise les doigts pour oui. Moi, j'ai espoir. Je m'attends à une victoire de 4-2 du Canadien. Du moins, c'est ma prédiction. Une chose est sûre, c'est qu'on va avoir un bon match. Si le Canadien sort fort ce soir, on a deux équipes qui sont jeunes, deux équipes qui sont rapides. On peut avoir un match très excitant à regarder. Par contre, il faut faire attention au Sabre. On l'a vu dans le dernier match. Ils sont excessivement dérangeants. utilise beaucoup de bâtons pour venir déranger l'adversaire pour rapidement récupérer des rondelles. On a vu un Tage Thompson en feu lors du dernier affrontement face aux Canadiens. On va espérer qu'il soit un peu plus tranquille ce soir parce qu'il était dur à contrôler. Mais je pense que le Canadien se doit de sortir fort ce soir après leur dernier match face à Buffalo.
Les Sabres de Buffalo, t'en as parlé, Tage Thompson qui a 51 points en 49 matchs. Hier, j'entendais à la radio qu'il a 23 points en 20 matchs en carrière contre le Canadien, donc ça va très bien pour lui. Il y a Josh Dome qu'on a acquéri dans une transaction du côté des Sabres à l'été qui fait très bien avec 35 points en 49 matchs. Il vient de signer une prolongation de contrat de 7 ans là-bas, donc on aime beaucoup ce qu'on voit du côté du jeune Dome, qui est le fils de Shane Dome, pour les gens qui le connaissent, ancien joueur des Coyotes de Phoenix de l'Arizona et ancien capitaine aussi d'équipe Canada.
Puis quelle signature, on parle de 7 millions sur 7 ans pour un jeune, on va s'entendre, Shane Dome, il est pas vieux. Josh Dome, excusez-moi, tu m'as aidé, Jeff, en parlant de Shane Dome. Josh Dome, il est vraiment pas vieux.
Non, pas du tout.
Il a présentement 23 ans. 7 millions sur 7 ans pour un jeune qui a présentement 35 points en une cinquantaine de matchs. C'est un excellent contrat, considérant que la masse salariale va grandement augmenter au cours des prochaines saisons.
Oui, exactement. Donc, excellent contrat de la part des Sabres de Buffalo. Ils sont à Montréal ce soir, puis dans la Ligue nationale de hockey. Pas besoin de vous rappeler que le classement est très serré. Montréal pointe au troisième rang de la division Atlantique à 63 points, mais les Sabres sont derrière à 59 points avec un match en main, donc match de 4 points très important.
Oui, puis on a tendance à les perdre dernièrement, sauf contre les Sénateurs. Tous les matchs dans notre division sont excessivement importants cette saison.
Exactement. Et parlant de matchs importants hier, belle victoire des Wings de Détroit 2-1 en prolongation sur les Maple Leafs de Toronto. Les Wings ont maintenant 66 points au classement. John Gibson, le gardien de but qu'on a acquis durant la période estivale, 16 victoires et 2 revers à ses 18 derniers départs. Donc vraiment, il est en train de se relancer à Détroit et de permettre peut-être bien aux Red Wings d'enfin faire les séries après plusieurs saisons à l'extérieur des éliminatoires.
Puis John Gibson, je trouve ça le fun que t'en parles parce qu'il connaît une bonne saison. Puis ce gardien-là, à l'époque, avec les Ducks d'Anaheim, il était perçu dans les années, je dirais, 2016 à 2021 comme un des meilleurs gardiens de la Ligue. Il a juste eu jamais d'équipe devant lui. Là, il a la chance d'avoir une équipe qui joue devant lui. Ça va être fun de voir jusqu'où il pourra amener les Red Wings cette saison.
Ah oui, très belle équipe rapide, les Red Wings de Détroit. J'ai adoré, j'ai écouté la troisième période hier contre les Maple Leafs de Toronto. Après la pause, Mathias, tu nous as préparé un dossier sur le logement parce que bien que la ville de Québec a 5700 portes présentement en chantier pour le logement, pas sûr que la famille moyenne tripe beaucoup.
Ben juste pour vous donner une idée, on est passé d'un taux d'inoccupation à moins d'1 % à 2,2 % de taux d'inoccupation, ce qui est relativement correct pour vrai. Pourtant, dans la dernière année, 6,7 % d'augmentation pour le logement locatif. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ça va changer prochainement? On traite de ça après la pause.
Ah, donc, après la pause, à l'émission d'Angers, dossier sur le logement. Est-ce que nos logements sont abordables à Québec? Mathias Turcotte fait le tour pour nous.